Ce matin, on continue notre série dans Jean et on arrive dans une nouvelle portion de Jean, puis on va voir justement la gloire de Christ ce matin. Dans l'évangile de Jean, je ne sais pas si vous savez ça, Jésus fait des miracles, ça vous saviez ça? 4 évangiles, Jésus fait des miracles. Mais dans l'évangile de Jean, c'est particulier. Les miracles dans l'évangile de Jean, généralement, Jean va utiliser un mot grec spécifique qui se traduirait mieux par « signe ». Et donc, les miracles dans Jean sont des signes qui nous aident à connaître Christ. Ce n'est pas juste une manifestation de puissance. Un miracle, c'est quelque chose de surnaturel, c'est une intervention surnaturelle. Ça demeure ça dans Jean. Mais ce sont aussi des signes qui pointent vers quelque chose, qui révèle la personne de Christ. Et donc, ce matin, on prend une longue portion dans Jean, on prend un chapitre complet, le chapitre 2, parce que je veux... Je désire qu'on découvre un peu ce que ça veut dire, justement, ces signes-là. Et donc, quand vous allez dans Jean, je vous invite à vous transformer un petit peu à travers toute la série en Sherlock Holmes. Il y a des subtilités dans Jean que tu découvres seulement en lisant, puis en relisant, puis en relisant. Puis là, tu réalises qu'il y a comme un message, puis un autre message, puis il y a d'autres liens encore. On pourrait passer énormément de temps dans Jean, dans des tout petites portions. Il y a tellement de subtilités. Je veux vous encourager à faire quelque chose qu'on ne fait jamais ici, d'accord? Je veux vous inviter à spéculer, c'est-à-dire à émettre des hypothèses pendant que vous êtes en train d'étudier l'Évangile de Jean avec nous. C'est comme ça qu'on découvre les trésors dans Jean. Il faut le lire puis dire, ça se peut-tu que Jean soit en train de faire une allusion ici à quelque chose? Puis des fois, vous allez vous tromper. Vous allez relire puis après ça, vous allez dire, non, là, je pense que j'allais trop loin. Mais je vous dis, dans Jean, il faut faire ça pour découvrir les trésors. Alors, je vous donne un exemple, puis on va le voir ensemble ce matin, puis j'espère que ça va nourrir notre lecture de Jean au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'année. Donc, on a deux récits que je mets en parallèle, parce que Jean les met en parallèle. Ça va être le premier signe que Jésus va faire à Cana, il va dans un mariage, il va transformer de l'eau en vin. Et puis, tout de suite après, Jean fait quelque chose d'étrange, probablement qu'il prend un événement qui est plus tard, puis il le met au début. Il fait un travail d'édition un peu, parce qu'il veut nous communiquer un message. Jésus va se rendre au temple, puis il va chasser les vendeurs du temple à cet endroit-là. Puis regardez bien, je vous le donne tout de suite, un élément qui est vraiment intéressant. Au mariage à Cana, Jésus ne prendra pas n'importe quel vase, d'accord, pour transformer l'eau en vin. Il va prendre des vases de purification que les Juifs utilisaient, puis au lieu qu'ils servent à la purification, ils vont servir à faire du vin pour une fête. Puis après ça, il va se rendre au temple, puis il va purifier le temple, en chassant les vendeurs du temple. Et donc, Jésus est en train de comme nous provoquer dans nos réflexions sur les rituels, sur ce que c'est la pureté selon Dieu. Il prend des vases qui servaient à la purification des mains, à se laver avant de faire les rituels. Il fait du vin avec pour continuer à faire la fête dans un mariage. Il va au temple, il chasse les vendeurs du temple, puis il purifie le temple. Puis dans une lecture simple, au début, tu ne vois pas ces choses-là. Mais plus tu lis, plus tu te dis, « OK, attends un peu, là. Jean est en train de nous dire que Jésus vient nous revisiter complètement notre manière d'aborder Dieu, notre manière de voir la religion, notre manière de comprendre notre relation avec Dieu. » Et donc, c'est juste un exemple. Mais moi, je vous invite, au fur et à mesure qu'on va avancer, transformez-vous en Sherlock Holmes. Souvent, vous allez aller partager avec quelqu'un d'autre, puis il va vous dire, « Élémentaire, mon cher Watson, c'est évident. » D'autres fois, il va vous dire, « Écoute, t'es complètement parti. Ça, c'est pas là dans le texte, t'es en train d'imaginer. » Mais on va découvrir des trésors, puis il y a un message profond qui est apporté avec ça. On va le découvrir ensemble ce matin. On va prier avant la lecture des Écritures. Seigneur Jésus, à travers cet évangile vraiment magnifique, qui nous parle d'un être complexe, un être riche, un être merveilleux, un être extraordinaire, toi, Seigneur Jésus, ma prière ce matin, c'est que tu nous fasses voir ta gloire. Montre-nous ta gloire, Jésus, ce matin. Seigneur, on connaît la gloire des hommes. On vit dans une culture de gloire, de superstars. On s'identifie à des gens qui ont une certaine gloire, Seigneur. On connaît aussi la gloire de ta création, Père. On se promène dans la nature, puis on assiste à des couchers de soleil extraordinaires. On voit ta gloire là, Seigneur. Mais Jésus, ma prière, c'est qu'à travers ce passage, tu commences à nous montrer, à nous révéler ta gloire à toi, Seigneur. Combien tu es merveilleux. combien tu es majestueux. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Jean au chapitre 2, les versets 1 à 25, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Jean, le chapitre 2, les versets 1 à 25. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras? » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme.
Merci. Merci, Danny. On vit à une drôle d'époque. On vit à une époque où je trouve qu'il y a beaucoup de pression sur l'individu, sur chaque individu. Les gens sont stressés dans notre culture. On a des grands objectifs, de grandes ambitions, beaucoup d'anxiété, le sentiment qu'il faut accomplir beaucoup de choses, qu'il faut réussir à réaliser beaucoup de choses. Et j'ai l'impression qu'une bonne partie de cette anxiété-là est due au fait qu'on nous demande de croire en nous. Puis en fait, dans notre culture, on ne nous demande pas vraiment de croire en nous, on nous commande de croire en nous. T'es capable, t'as un potentiel, faut que t'aies au maximum de ton potentiel. Puis, il y a quelque chose de sain dans l'idée de dire, écoute, je pense que t'es capable de faire quelque chose dans la vie. Sois pas insécure, avance, tu vas pouvoir faire quelque chose. Mais c'est pas ça le message qui nous est lancé. Le message qui nous est lancé, c'est, écoute, c'est pas que t'es capable de faire quelque chose, c'est que t'es capable de faire de grandes choses. Il n'y a absolument rien que tu ne pourrais pas faire. Tout ce que tu désires faire, tu as juste à le mettre devant toi, tu vas pouvoir l'accomplir. C'est pas ça le message? Et je pense que ça fait partie de l'anxiété d'une jeune génération qui est là et qui dit, « OK, aïe, je suis supposé découvrir tout mon potentiel, puis là, je regarde à l'intérieur de moi, puis ouh, OK, je le cherche encore, je ne sais pas ce que je veux faire. Comment je vais devenir une star? » C'est pas vrai que tout le monde veut devenir une star, mais en même temps, on a tous les médias sociaux qui nous permettent de dire à la planète, voici, j'existe. Puis là, on regarde les autres, tu sais, puis OK, il y a quelqu'un qui part une bêtise sur YouTube, puis il devient une superstar. Là, tu dis, OK, il faut juste que je trouve quelle niaiserie je peux faire pour pouvoir avoir un compte YouTube complètement éclaté. Lorsqu'on se tourne vers les Écritures, le message est complètement différent. Puis, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, naturellement, je me sens mieux là. J'ai toujours trouvé plus facile de croire dans les autres que dans moi-même. Je ne sais pas pour vous. Puis je ne pense pas que c'est vraiment une question de complexe. C'est plus simple pour moi juste de dire, écoute, je connais mes limites, là, mais je te regarde aller puis je pense que tu peux faire des choses incroyables. J'ai toujours trouvé ça plus facile. Lorsque j'arrive dans les Écritures, le message de Jésus, c'est « Crois pas en toi, crois en moi. » Pas Yannick, Jésus. « Crois en Dieu. » Plus loin dans l'Évangile de Jean, Jésus va dire « Croyez en Dieu, croyez en moi. » Il ne dit pas « Croyez en Dieu et croyez en vous-même. » Il ne dit pas ça. En fait, il va plus loin, il en rajoute lorsqu'on est dans Jean 14, verset 12 à 14, il dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » J'ai hâte qu'on arrive dans ce passage-là. C'est tellement intriguant ce que Jésus est en train de dire ici. Mais il dit, OK, tu rêves de faire de grandes choses. Pas de problème avec ça. Crois en moi. Crois en Jésus. Tu peux rêver de faire des choses énormes pour la gloire de Dieu, mais crois en Jésus-Christ. Tu vas faire des choses énormes, des choses grandes. C'est tellement contre-culturel. Jésus est toujours contre-culturel. Jésus va toujours à contre-sens de ce qu'on rencontre dans la culture. Et on va voir ensemble dans le passage ce matin que Jésus nous dit, écoute, si tu veux faire de belles et grandes choses, casse-toi pas la tête à passer ton temps à croire en toi puis découvrir tout ton potentiel. Crois en Jésus. Crois en Jésus, contemple sa gloire, entre en communion avec Dieu. Tu vas faire des grandes choses pour sa gloire. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Crois en Jésus-Christ pour voir sa gloire et être en communion avec Dieu. Voyez-vous, dans ces deux passages qu'on regarde ce matin, il y a d'une part des signes que Jésus va faire, des signes qui nous aident à voir sa gloire, la grandeur de Christ. Puis d'autre part, on voit différentes personnes qui croient en Jésus. Et certains vont croire en Jésus au point de voir sa gloire. Et donc, il y a vraiment ces deux idées-là qui sont en parallèle tout le long. Des signes que Jésus nous donne de sa gloire et la foi de différentes personnes. Puis on est invités, nous, à croire en lui pour voir sa gloire se manifester et entrer en communion avec Dieu. Les signes de sa gloire. Au tout début du passage, Jésus dit quelque chose à la limite offensant. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? » Ben, je suis ta mère, tu sais, déjà. Mon heure n'est pas encore venue. Puis lorsqu'on avance un tout petit peu dans le passage, on arrive dans le temple, puis là, Jésus éclate de colère, puis il dit, « Chassez ça de la maison de mon père. » Depuis le début de l'Évangile de Jean, Jean est en train de nous dire que Jésus n'est pas de la terre. Jésus est la parole de Dieu qui était avec Dieu, qui était auprès de Dieu. Et donc, un des signes de la gloire de Christ, une des manifestations de sa gloire, c'est qu'il n'est pas simplement de la terre. Oui, Marie était sa mère terrestre, mais déjà, on arrive à un endroit où il va nous dire, « Oui, mais en réalité, mon père, c'est Dieu. Ma famille, c'est Dieu. » Je viens de Dieu, je ne viens pas de la terre. Avant d'être sur la terre, j'existais déjà. Et si tu veux voir la gloire de Christ, tu dois saisir le fait qu'il est Dieu avant d'être un homme. Il devient un homme, il devient l'un des nôtres, mais avant d'être un homme, avant de s'incarner, il était déjà, il existait déjà. Son Père est dans les cieux. Et à partir du début de son ministère public, à partir de ce passage-là, Jésus va se concentrer à nous faire connaître son Père céleste. Son Père est dans les cieux, il ne vient pas simplement de la terre. Ensuite de ça, Jésus nous enseigne un nouveau rapport à Dieu. Il nous parle des rituels religieux, puis il nous parle de la vraie religion. Donc, Jésus est dans un mariage, il a été invité à un mariage. C'est un mariage d'un de ses amis, de toute évidence, puisqu'il est invité là, sa mère est présente. Il y a un lien quelconque avec la famille, je ne sais pas. Il se retrouve dans ce mariage-là, et puis, les mariages pouvaient durer jusqu'à 7 jours à l'époque, d'accord? Donc, quand tu organisais un mariage, ça prenait du vin, ça en prenait longtemps, il fallait organiser des choses. Le mariage est en cours de route, puis on manque de vin. C'est la catastrophe. Parce que ce qui risque d'arriver, c'est, tu sais, ça va être, tu sais, on est allé au mariage de Jean-Luc ou de Louis ou de Joséphine, puis tu sais, comme au troisième jour, il n'y avait plus de vin. Tu te rappelles de ça? C'est la seule chose qu'on va retenir de ce mariage-là. Jésus est là, puis c'est la catastrophe, il va manquer de vin. Fait que sa mère va vers lui, puis je reviens à ce qui se passe là dans l'échange entre Jésus et sa mère. Mais sa mère va vers lui, puis elle dit, écoute, il faut que tu fasses quelque chose. Puis là, Jésus va dire, OK, on va faire du vin. Maintenant, Jean prend le temps de nous dire spécifiquement, or il y avait là 6 vases de pierre, on s'entend, ce n'est pas des petits vases, c'est des amphores, c'est immense, destinés aux purifications des Juifs. Jésus décide de prendre ces vases-là. Pourquoi il prend ceux-là? Pourquoi Jean prend le temps de nous dire que dans un mariage, Jésus va prendre des vases qui servent à la purification des Juifs? Il va dire, mettez-moi de l'eau là-dedans, ça ne va pas servir à la purification, je vais transformer ça en vin, puis on va continuer la fête, les amis. Et Jésus est en train de nous parler de son rapport aux hommes, de son rapport à Dieu, de son rapport au rituel. Parce que nous, on est toujours attirés vers des rituels qui nous donnent une espèce de sécurité, mais ce que Jésus vient présenter aux Juifs, ce qu'il vient présenter au monde, c'est une véritable relation avec Dieu. Donc là je vais spéculer. Je ne vous dis pas que c'était nécessairement l'intention de Jean, mais peut-être, par exemple, peut-être que Jean est en train de nous dire que le succès du mariage de son ami était plus important aux yeux de Jésus que les rituels juifs. Peut-être. C'est pas clair dans le texte. Vous voyez, je suis en train d'émettre une hypothèse. Peut-être qu'il y a... Mais ce qui est clair dans le texte, c'est qu'il est en train de nous dire que c'est plus important qu'il manifeste sa gloire en transformant l'eau en vin et que la fête continue. Puis ça ne sera pas une grosse affaire. Hein. Il y a peu de gens qui vont savoir, juste les serviteurs puis les disciples. Même celui qui organise la fête ne le sait pas. Il dit, d'où tu sors ça, ce vin-là? Drôle. Tu sais, ça fait 3 jours qu'on boit. Tu sors au début le bon vin. À ce point-ci, ils ne se rendent même plus compte de la différence. Je suis désolé, mais ça ressemble à ça, le texte. Vous comprenez? Est-ce que Jean serait en train de nous dire que pour Jésus, la fête de son ami qui doit se poursuivre est plus importante que les rituels religieux des Juifs? J'ai mis une hypothèse. On va voir comment ça va évoluer, cette idée-là, à travers l'Évangile de Jean. Je ne sais pas, ce n'est pas super clair jusqu'à ce point-là dans le texte. Je vais juste émettre une hypothèse. Mais ce qui est clair, hein, c'est que Jésus nous provoque ici. Jésus provoque quelque chose par rapport au rituel des Juifs. Puis il dit, tiens, oh, vous avez des vases qui servent au rituel de purification. On va transformer ça en vin, on va continuer la fête. Il y a un beau mariage qui est en train de se faire ici, puis on ne voudrait pas que ce soit gâché. Puis ensuite de ça, il va se rendre au temple. Puis là, il arrive dans le temple. Puis là, il y a des vendeurs qui sont là, qui vendent bien, des animaux qui sont nécessaires pour les sacrifices, tout ça. Mais il semble que c'est en train de se passer à l'intérieur du temple. C'est pas clair. Il y avait différentes sections du temple. Est-ce qu'il est dans le parvis ou est-ce qu'il y avait les non-juifs qui se convertissaient, la section, le parvis des gentils? Tout n'est pas clair exactement qu'est-ce qui se passe ici. Mais Jésus est outré de ce que le temple ne sert plus à rencontrer Dieu premièrement, mais ça sert à faire de la business. Ça sert à faire de l'argent plutôt que d'aller rencontrer Dieu. Puis Jésus est en train de venir changer notre rapport à Dieu. Changer notre relation, notre manière de voir comment est-ce qu'on va approcher Dieu. On se prépare parce que bientôt, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il est en train de préparer le terrain. Il veut quelque chose de vrai. Il veut quelque chose de sincère. Hier, j'ai assisté à un service funéraire. On était dans une église catholique. Et puis, elle était vraiment belle. J'ai dit à ce temps, lorsqu'on est rentré, j'ai regardé les colonnes en avant, puis elles étaient superbes. Puis, le prêtre qui était là, mais évidemment, il enseignait l'ensemble de la doctrine catholique. Donc, il y avait des choses qui s'assilaient dans mes oreilles. On était en train de prier les morts, un paquet d'affaires. Mais il croyait. Il croyait énormément. Il s'appliquait dans ses rituels. Puis à un moment donné, j'étais là puis je disais, c'est puissant quand même les rituels. C'est fort. Moi, j'étais là, je n'adhérais pas à ces croyances-là. Je ne croyais pas à ça. Mais j'étais là puis je disais, c'est puissant les rituels quand même. Donc, on comprend que naturellement, l'être humain, on en a plein de rituels. Je veux dire, ce matin, vous vous êtes levé, puis probablement que les trois premières choses que vous avez faites, c'est les mêmes qu'hier, puis les mêmes que vous allez faire demain. Puis là, tout ce qui vous a déstabilisé, c'est que l'heure n'est pas à la même heure. Tu sais, mais là, comment est-ce que tu fais pour retrouver ton chemin? Tu refais les mêmes affaires. Tu sais. Il y en a qui se brossent les dents, il y en a qui vont boire de l'eau, d'autres partent le café, quatre cafés, puis là, tu commences à aller sur ton deuxième. On a des rituels, on est des bébites de rituels, on est faites comme ça, on comprend ça, c'est très puissant. Mais Jésus est en train de nous dire quelque chose ici. Il est en train de dire, ce lieu-là, le temple, c'est un endroit de rencontre avec Dieu, c'est un lieu de communion. Tout ça sert à venir rencontrer mon Père, c'est ça qui est au centre. Et Jésus est en train de venir complètement remettre en question notre rapport à Dieu. Ensuite de ça, il dit quelque chose d'énorme que les disciples vont comprendre seulement plus tard. Les autorités juives qui sont là, qui sont présentes, disent, écoute, tu rentres dans le temple, tu commences à chasser les vendeurs. T'es qui, toi? Quel miracle tu vas nous montrer là, pour qu'on te laisse te comporter comme ça ici? Puis Jésus donne une parole prophétique, dans le fond. Il est en train d'annoncer quelque chose qui va se passer plus tard, pas tout de suite. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèveras. » Plus tard, les disciples ont compris, après la résurrection de Jésus, après sa mort, après sa résurrection. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. On a vu dans les semaines passées, en fait la semaine dernière, on a vu que Jésus donne une parole à Nathanaël, puis il dit, t'es impressionné parce que je t'ai vu prier sous le figuier. Il dit, attends, dorénavant, vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de Dieu. Vous allez voir la gloire de Dieu sur le Fils de l'homme, sur moi. Et Jésus était en train de faire allusion à ce moment-là à une révélation que Jacob avait eue dans l'Ancien Testament. Et Jacob avait nommé ce lieu-là où il avait rencontré Dieu, Bethel. Jésus est en train de dire, ce que vous allez voir, c'est que c'est moi, Bethel. C'est en moi qu'on vient rencontrer Dieu. Puis là, il est en train de dire ici aux Juifs, il est en train de dire, détruisez ce temple, puis en trois jours, je vais le reconstruire. Puis il est en train d'annoncer sa mort, puis sa résurrection. Parce que Jésus est notre nouveau temple. Jésus est notre sanctuaire. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi des sanctuaires d'oiseaux. Il y en a qui savent ici, moi j'aime la chasse, donc j'aime pas les sanctuaires d'oiseaux. Non, j'aime les sanctuaires d'oiseaux, mais vous savez c'est quoi des sanctuaires d'oiseaux? Non? On se promène au Québec, tu arrives à un endroit, puis tu n'as pas le droit de leur toucher. Il y a des places qui sont absolument extraordinaires. À Lillet-sur-Mer, il y a un sanctuaire d'oiseaux où il y a des outardes et des oies blanches qui vont là à chaque année. Mon père habitait là, on était assis juste sur le bord du fleuve. Et quand c'est la saison, tu n'as pas le droit de leur toucher. C'est absolument phénoménal. Il peut y avoir 100, 200 000 oies blanches qui sont là. Puis à un certain moment donné, elles décident qu'elles décollent ensemble. Elles s'en vont ensemble. Puis tu as un sentiment de la paix qui est là. Parce que ces oiseaux-là sont protégés. Ils sont là dans toute leur splendeur, dans toute leur beauté. J'espère, si vous n'avez pas visité le Québec, vous êtes immigrant, vous êtes arrivé au Québec, puis vous dites, « Oh, Montréal, c'est bien. » Ouais, c'est bien Montréal, mais attends, on va voir le reste du Québec. Montréal, c'est juste comme notre cour arrière, c'est le portique d'entrée. Faut peut-être voir le Québec au complet pour voir la gloire de Dieu dans la nature. Puis tu t'arrêteras en allant vers Rivière-du-Loup, là, puis Rimouski, à Lillet-sur-Mer. Puis tu diras, ah ouais, Yannick nous a parlé de ça, spécialement au mois de septembre. Là. Arrêtez-vous, là, vous allez voir un sanctuaire avec des oies blanches, des outardes, c'est splendide. Puis restez là jusqu'au coucher du soleil. Puis à un moment donné, le voilier d'outardes va décoller. Puis vous allez voir des centaines de milliers d'oies blanches décoller. Puis vous allez dire, ça c'est un sanctuaire. Et Christ est notre sanctuaire. Jésus est notre lieu où on va rencontrer Dieu. J'ai plus besoin du temple. J'ai plus besoin des vases de purification. En fait, Jésus va nous dire plus loin que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive vont sortir de son sein. Comme si les vases qui étaient un vin nouveau, une abondance, une plénitude qu'on trouve en Jésus. Je spécule. Mais je pense que Jésus est vraiment glorieux, il est vraiment majestueux et il est notre sanctuaire. Si tu veux voir la gloire de Christ, il va falloir que tu découvres que Jésus est notre sanctuaire. C'est là qu'on fait la paix. C'est là qu'on fait la paix avec Dieu. C'est là qu'on fait la paix avec nos bêtises, avec nos péchés. C'est tout près de Jésus. C'est là qu'on fait la paix avec cette espèce d'angoisse incroyable de dire « Je dois m'accomplir, je dois me réaliser, c'est moi, je dois trouver tout mon potentiel. » Non, découvre le potentiel de Christ. Puis viens te reposer auprès de lui. Contemple sa gloire. Tu vas commencer à faire des choses extraordinaires que tu n'aurais jamais pu imaginer. Enfin, le dernier signe que Jésus nous donne ici, il connaît nos cœurs. Il dit à la fin du passage, au verset 23 à 25, « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Jésus est Dieu et connaît nos cœurs. Il voit nos cœurs, il voit nos doutes. Il voit notre foi, il voit nos combats, il voit notre recherche. Jésus est là, il connaît nos cœurs, il est dans l'intimité de nos cœurs. La semaine dernière, je parlais de cette idée dans Jean que celui que Jésus appelle va entendre sa voix. Et je disais, peut-être que tu entends la voix de Christ depuis un certain temps. C'est pas audible, mais en même temps, c'est très réel. Je sais que c'est étrange, puis si tu ne crois pas en ça, tu dis, regarde, c'est toute une gang de capotés. Oui, dans un sens, je veux dire, si tu m'avais vu parler de ma fiancée, tu aurais dit, il est capoté d'Esther, tu sais. Ben, OK, je suis un capoté de Jésus, c'est correct. Mais c'est parce que j'ai vu sa gloire. J'ai vu sa gloire, j'ai vu combien il est merveilleux. Et j'ai goûté sa gloire. J'ai expérimenté Christ, mon sanctuaire, où je vais me reposer de mes péchés, de mes fautes, de moi-même, d'essayer de m'accomplir par moi-même, puis je vais m'abandonner à lui. Et je vois sa gloire, puis je vais me reposer en lui. Et je sais qu'il voit mon cœur, je sais qu'il voit mes doutes, je sais qu'il voit mes combats, je sais qu'il voit ma foi, puis des fois mon manque de foi. Il connaît tout de nous. Et ce sont des signes que Jésus a donnés pour nous montrer sa gloire. Maintenant, on va regarder ensemble les gens qui ont cru en lui. Puis la première, c'est sa mère. C'est vraiment fascinant ce qui se passe dans cet échange-là. Marie, c'était la mère naturelle de Jésus. Ils vont dans un mariage, puis comme j'ai dit tantôt, long mariage, prend beaucoup de vin, manque de vin, catastrophe. Fait que Marie va voir Jésus, puis elle dit, il manque de vin. Je ne sais pas vous, mais moi, je veux dire, tu viens me voir, puis on a 400 invités, puis tu me dis, il manque de vin. Tu veux que je vende mon char? Qu'est-ce que je fasse? Il manque de vin. Mais gardez ça en tête, parce que ça nous parle beaucoup de sa foi à elle. Puis là, Jésus, de répliquer, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? » Puis honnêtement, on ne peut pas comme trouver une manière de le traduire pour que ça ne sonne pas dur dans les oreilles, parce que dans le grec, c'est pas commun d'employer ça pour parler à ta mère. Et donc, Jésus est en train de nous donner un indice qui n'est pas seulement de la terre. C'est sûr que c'est aberrant lorsqu'on nous dit, ben, tu vas prier Marie parce qu'elle a un accès, tu sais, elle a réussi à faire du vin. Oui, mais continue à lire le texte parce qu'il faut que tu vois la réplique de Jésus. Le message, ce n'est pas prier Marie parce qu'elle peut intercéder pour vous auprès de Jésus. Ce n'est pas ça le message dans le texte du tout. C'est tout le contraire de ça. C'est tout le contraire de ça. Jésus, un peu brusquement, lui dit, « Écoute, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas arrivée. » Ça, c'est intriguant, cette affaire-là. « Mon heure n'est pas arrivée. » De quoi tu parles? C'est quoi ça, « Mon heure n'est pas arrivée? » L'heure que son père a décrétée pour qu'il se fasse connaître au monde, n'est pas arrivé encore. Dieu est souverain et chacun d'entre nous, un jour, notre heure va arriver. Vous connaissez cette expression-là? Ah, son heure est arrivée. Bien, ça ressemble à ça aussi pour Jésus. Quand son heure va arriver, puis ça va tourner mal. Parce qu'il va aller mourir sur la croix, son heure est arrivée. Mais il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. C'est pas toi qui vas dicter quand je vais commencer à faire des miracles. Mon heure n'est pas encore arrivée. Puis pourtant, la mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. C'est vraiment intéressant l'échange. Elle va voir Jésus, elle dit, écoute, il manque de vin. OK, il manque de vin, mais encore, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Maintenant, il sait qu'est-ce qu'elle veut. Alors, elle dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Puis elle, sans pas en prendre offense, elle se tourne vers les serviteurs, puis elle dit, vous ferez ce qu'il vous dit de faire. Elle s'en va. Elle est vraiment extraordinaire. Jésus vient juste de dire, c'est pas le temps. Mon heure n'est pas arrivée. C'est pas le moment que je fasse un miracle. Puis il vient juste de dire, c'est pas parce que tu es maman naturelle que tu vas commencer à commander au Fils de Dieu qu'est-ce que je dois faire. Mais voyez-vous, Marie savait qui était Jésus. Elle prétend pas qu'elle va y faire faire ce qu'elle veut parce qu'elle est sa mère, elle sait qui il est. Si j'avais à écrire un peu ce qui n'est pas écrit dans le texte, ça donnerait à peu près quelque chose comme ceci. Le vin vient à manquer. Mais encore, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, toi puis moi, on s'est quittés. Fais quelque chose avec ça. Pis Jésus dit, c'est pas le moment. On n'est pas rendu là. Mais elle croit en lui. Fait qu'elle dit au serviteur, vous ferez ce qu'il vous dit de faire. Qu'est-ce que Jésus fait? Il multiplie l'eau, il change l'eau en vin. Il change l'eau en vin. Pourtant, l'heure n'est pas venue. Il y a quelque chose qu'on voit à travers toutes les Écritures, c'est vraiment fascinant de voir la relation que Dieu a avec les gens qui croient en lui. Pensez à Moïse. Dieu dit, tasse-toi, je vais détruire ce peuple-là, je vais les éliminer, on va recommencer à zéro, une gang de rebelles. Moïse s'interpose, non, Dieu! Dieu dit, ah, OK. Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Comme si elle n'avait rien compris, elle dit, vous ferez ce qu'il vous dit de faire. Elle s'en va. C'est incroyable. Pourtant, Jésus, c'est ça qu'il nous a enseigné sur la prière. Alors, pourquoi je me tourne vers Jésus? Bien, parce que c'est Jésus. Il est tout puissant. Il peut tout faire. Puis, je lui demande parce que je crois en lui. Tu as un ami qui a perdu son travail, puis tu dis, catastrophe, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas vers Jésus, puis tu dis, Seigneur, il manque de travail. Il manque peut-être pas de vin, mais il manque de travail. Tu as un couple d'amis qui sont découragés, c'est difficile leur couple, la relation est compliquée. Ils sont toujours en train de se chicaner. Ils n'arrivent pas à vivre ce que les Écritures nous enseignent sur le mariage. Puis tu es là, puis tu dis, mes pauvres eux. Tu vas vers Jésus, puis tu dis, Seigneur, il manque de sagesse, il manque d'amour l'un pour l'autre. Tu vas vers Jésus avec tout. Tu vas avec Jésus n'importe quand. Tu peux l'importuner, tu peux le déranger. Tu vas vers lui. Pourquoi? Parce que tu sais qui il est. Marie savait qui il était. Pas de problème. Elle ne prend pas offense du fait qu'il dit, « Ouais, mais écoute, là, c'est pas parce que tu es maman. Je réponds à mon Père céleste, tu comprends? » Vous ferez ce qu'il vous dit de faire. Puis Jésus multiplie. Et j'aime cette foi toute simple qu'on veut avoir, nous, dans la prière. Jésus va le développer plus loin dans l'Évangile de Jean, mais il va nous dire, maintenant que vous croyez en moi, allez vers le Père puis demandez. Mais demandez simplement comme Marie. Demandez avec foi. Cassez-vous pas la tête en disant, bon, OK, si je veux voir Jésus, il va peut-être demander une offrande. Tu sais, les gens qui, comme les chefs religieux, ils passent des sacs d'offrandes. Peut-être Jésus va comme, il est là avec ses disciples, on manque de vin, est-ce qu'on peut passer la quête, tu sais. Non, elle ne se casse pas la tête, elle ne cherche pas les solutions, elle va juste vers Christ. Puis elle dit, il manque de vin. Fais quelque chose avec ça, Seigneur. Moi, je vous invite cette semaine, faites ça pour plein de situations autour de vous. Puis allez intercéder en faveur de vos proches, en faveur de vos amis, en faveur des voisins, en faveur des gens qui ne le connaissent pas, ne croient pas en lui. Puis simplement dites, il manque de foi. Seigneur Jésus, il manque de foi. Seigneur, il manque de patience. Seigneur, il manque d'argent, il manque de travail, il manque de sagesse. Seigneur, il n'y a plus la santé. Et avec simplicité, si vous connaissez Jésus, allez-y parce que vous connaissez Jésus, c'est tout. Simplement. Quelle scène incroyable, quelle foi incroyable. Puis ensuite de ça, on voit la foi des disciples qui vont croire en lui parce qu'ils voient sa gloire. Au verset 11, « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Ses disciples crurent en lui. Parce qu'ils ont vu sa gloire. Si Dieu t'a révélé la gloire de Christ par son Esprit Saint, crois en lui. Suis-le, marche à sa suite. Si tu es là et tu dis, je voudrais croire, je le trouve assez fascinant, mais est-ce que vraiment je devrais le suivre? Demande-lui de te manifester sa gloire, de te faire réaliser combien il est grand, combien il est merveilleux. Si tu as perdu la foi, si ta foi est défaillante, si tu as de la difficulté à avancer dans ta foi, si tu es retombé dans tes rituels, tu as sorti tes vases de purification, puis tu sais, tu as tous tes petits rituels religieux, puis tu dis, « Ouais, je pense que si je vais me laver les mains comme ça, c'est comme ma foi va redécoller. Il faut juste que je remette mes rituels en place. Puis une fois que je vais avoir mis tout ça en place, je pense que la foi va revenir. » Ce n'est pas de ça dont tu as besoin. Tu as besoin que Christ te révèle sa gloire. Tu as besoin de voir Jésus-Christ dans toute sa gloire. Tu as besoin de réaliser qu'il est Dieu, qu'il n'est pas simplement un prophète. Tu as besoin de réaliser qu'il est Dieu fait homme. Tu as besoin de réaliser ce qu'il est venu faire à la croix pour nous. Parce que les disciples ont cru en sa parole lorsqu'ils ont saisi ce qu'il avait dit en parlant de ce temple qui serait détruit puis rebâti en 3 jours. Ils ont cru que c'est Jésus qui nous conduit à Dieu. Ils ont cru que Jésus est notre sanctuaire. Jean 2, 19 à 22, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Les disciples ont cru que Jésus est notre sanctuaire, que Jésus est notre temple, que sa mort sur la croix a servi à prendre nos péchés, que sa résurrection, c'est Dieu qui a béni, c'est Dieu qui a approuvé ce sacrifice, et que celui qui croit en Jésus a le pouvoir de devenir enfant de Dieu, que celui qui croit en Jésus peut entrer en relation directe avec Dieu. Plus besoin de vase de purification, plus besoin d'un temple physique. Simplement croire en Christ, voir sa gloire, puis m'approcher de Dieu en toute liberté. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans votre foi. Je ne sais pas dans quelle mesure, lorsque tu te lèves le matin, tu as conscience de la gloire de Christ. Je prie chaque semaine pour que Dieu réveille les églises qui ont perdu leur premier amour. On prie pour ça avec le 24-7, ceux qui prient avec nous. Puis j'ai des églises à l'esprit, puis j'ai des moments dans ma vie aussi à l'esprit où ce premier amour-là était disparu. Ce n'est pas des rituels qui l'ont ramené. C'est simplement de voir la gloire de Jésus-Christ. De réaliser qu'en lui, j'ai toute la liberté de m'approcher de Dieu. Peu importe qui je suis, peu importe le fait que j'aurais l'influence qu'on aurait pu vouloir donner à Marie sur Jésus, ce n'est pas important. je crois en lui, j'ai accès à lui. Puis à partir du moment où Christ réveille mon âme, je recommence à lui parler comme étant Dieu fait homme. Je vais vers lui avec simplicité. Puis je prie pour des églises. Ce matin, je priais, puis je dis, Seigneur, il manque un pasteur ici. Je te demande d'envoyer un pasteur. Je ne sais pas d'où il va venir, je ne connais pas, je ne sais pas où on va le trouver. Je priais pour des couples en difficulté, puis là, je disais, mais Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire ça. Je priais pour des gens qui sont dans des besoins, puis je n'ai pas les réponses. Je n'ai pas besoin des réponses, parce que je contemple la gloire de Christ. Je vais simplement vers lui, puis je dis, Seigneur, toi, tu as toutes les ressources du monde. Je veux juste te faire part de ce besoin-là. Peut-être que le timing n'est pas bon, mais moi, je vais t'importuner jusqu'à ce que tu bénisses, parce que je te connais. Je sais que tu nous aimes, Seigneur. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient t'adorer ce matin. On vient t'élever dans nos cœurs, et je te prie par ton Esprit Saint de t'élever, Seigneur, dans nos âmes, dans notre esprit, Seigneur. Viens nous saisir et nous montrer ta beauté. Viens nous montrer, Seigneur, ce que tu es venu établir pour nous, la voie, le chemin que tu es venu ouvrir vers le Père. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux par la puissance de tes œuvres, par ces signes miraculeux que tu as fait, Seigneur, et le plus beau miracle que tu as fait dans ma vie, c'est que tu m'as montré ta gloire, Seigneur. Au jour où tu m'as montré ta gloire, je suis devenu chrétien. J'ai cédé les armes. J'ai arrêté de me battre avec toi, Seigneur, puis j'ai dit, je me confie dans ton sacrifice, Jésus. Seigneur, j'aimerais te prier ce matin pour ceux d'entre nous qui n'ont pas vu ta gloire encore. Seigneur Jésus, viens leur montrer ta gloire. Viens leur montrer ta gloire, Seigneur. Lève-toi dans leur âme par ton Esprit Saint, que ces paroles, cette sainte parole devienne vie en eux, Seigneur. Viens leur révéler ta gloire. Et ceux de tes enfants, Seigneur, qui ont connu ta gloire, mais qui ont perdu leur premier amour, Seigneur, viens par ton esprit ranimer cette flamme en eux, Seigneur. Qu'ils tombent en amour à nouveau avec toi. Qu'ils contemplent ta majesté, Christ. Et qu'ils célèbrent avec nous, Seigneur, dans la louange, la grandeur de ton nom. C'est en Jésus qu'on prie. Amen. Amen.